Comme elle nous avait manqué, cette délicieuse intro de des Kiwis et des Nerds, ça fait déjà une semaine et une semaine entière de mon côté dans l'expectative de pouvoir jouer à Elden Ring, mais je vous parlerai de tout cela plus en détail tout à l'heure. En premier lieu, on va commencer en resaluant nos Kiwis, en fait. Bonjour Jérémy, bonjour Alex.
Salut.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait d'un peu Nerds? Quelles sont vos anecdotes de la semaine?
Moi, j'en ai vraiment pas en tout. Moi, j'ai passé toute la semaine à suivre ce qui se passe en Ukraine. C'est juste ça. J'ai comme suspendu le nerd, là. Puis là, je suis devenu genre la gravité genre géopolitique. C'est juste ça.
Le côté inaptitude sociale est ressorti. C'est caché là, pour devenir une sensibilité sociale. Bref.
Effectivement, la situation qui va pas en s'améliorant. Une non. situation un peu compliquée avec une centrale nucléaire, quand j'ai même cru comprendre. Sauf que pour se garder, se divertir de ce genre de situation, bien que parce qu'au final, on est un peu impuissant, même s'il y a toujours quelque chose à faire. On va rester concentré cette semaine-ci sur les volets jeux vidéo, geek et autres. Mm-hmm. Donc, toi, de ton côté, Alex?
Ah, une petite anecdote, Donjon Dragon. Je joue à Warhammer Quest là, en ce moment, là, à chaque mercredi. Là. Puis, c'est ça, on était une team là, de personnages, puis on venait de finir une demi-quête. Là, puis, on avait la dure décision de... c'était la quête tournait autour d'une fontaine qu'on pouvait voir l'avenir dedans. Ooh. Puis on avait la possibilité de boire une gorgée de cette eau mystérieuse. Avec un D6, si on pogne un 1, on meurt totalement de poison mortel, aucun rien à faire. Si on pogne un autre jet, ben là, on peut retrouver tous nos points de vie. Donc moi, j'ai pris la décision là, de boire dans la fontaine.
Qui te double.
Ouais, c'est ça. J'avais un point de chance, fait que je pouvais au moins refaire un autre jet de dés si jamais ça marchait pas. Fait que là, toujours bien, c'était un risque calculé. Fait que je l'ai fait, j'ai eu un 4, j'étais bien heureux, j'ai pu retrouver mes points de vie, puis là, mes partenaires étaient comme, t'aurais pas dû, mais finalement, j'ai pris la décision de le faire, puis deux minutes après, il y avait une trappe, des pics, je tombais dans les pics, je tombais 14 points de vie, il me restait un point de vie. Wow. Alors là, on est venu à la conclusion que oui, j'avais bien fait de boire dans la fontaine. T'as
définitivement bien fait, considérant qu'il te restait un point
quand
de
même,
vie.
Ouais.
Et moi, de mon côté, ça a été assez léger en termes d'anecdotes. Les parties se sont bien déroulées. Il n'y a pas d'événements qui ont plus marqué que ça. Ça arrive. Des fois, il y a des semaines qui sont plus relaxes. Côté anecdote, par contre, disons que Elden Ring en est plein, mais je me conserverai pour tout à l'heure parce que, croyez-moi, c'est une sacrée histoire que ce jeu. Sans plus attendre, donc, on peut commencer par toi, Jérémy, et ta chronique.
OK, c'est parfait. Moi, je pensais, comme à ma dernière apparition, je pensais peut-être parler d'un vieux jeu, les jeux rétro un peu plus, qui datent de quelques années. Un jeu en particulier qui m'avait beaucoup marqué, Soma.
Oui.
Dans les jeux, les gens peut-être qui ne connaissent pas ce jeu-là, ils connaissent certainement le jeu Amnesia The Dark Descent, un jeu culte d'horreur sur le PC qui est sorti peut-être 10 ans maintenant. Enfin, environ 10 ans. Je pense que c'est sorti en 2011 ou en 2010. Et Soma, c'est le même studio qui a fait ce jeu-là, Soma. C'est pas un jeu qui... À l'époque, ça l'avait moins marqué parce que c'est un jeu, je pense, un peu plus subtil, mais c'est aussi un jeu qui faisait moins peur. T'sais, le phénomène Amnesia, c'est quand il y a PewDiePie à jouer, puis là, tout le phénomène YouTube,
ouais.
Tout ça. Avant même, le Twitch, quand même assez remarquable. À l'époque, ça fonctionnait encore avec YouTube puis pas Twitch que quelque chose explosait. Là.
Ma magie divinatoire me dit que c'est en 2015 que Soma est sorti.
Ouais, Soma, okay, moi, c'est génial. Soma, mais tu vois, ça fait quand même quelques années. Et puis, écoute, ça paraît pas. Quand j'y joue encore de temps à autre, ça paraît pas. C'est vraiment un jeu qui... C'est un jeu qui est vraiment beau à regarder. Mm-hmm. C'est un jeu qui avait fait des vagues à l'époque parce qu'il fait moins peur. Mm-hmm. C'est quand même assez reconnu universellement qu'il fait moins peur que Amnesia de Dark Descent, mais c'est un jeu qui est beaucoup plus sophistiqué en un sens. Son histoire est vraiment, vraiment intéressante.
Okay.
En gros, c'est comme un exercice de philosophie. Il y a carrément des moments dans le jeu où les devs nous font faire un sondage. Pour demander, genre, carrément, genre, ton personnage,
hot.
Genre, c'est comme dans le jeu, les membres de la station. En gros, là, le jeu se déroule comment? C'est quoi, Soma? Ben, en gros, c'est un monde post-apocalyptique où il y a un météorite qui a frappé la Terre et puis il n'y a plus de vie sur la surface de la Terre. Mais il y avait ce groupe de scientifiques-là qui qui opéraient sous le niveau de la mer dans une station scientifique. Et puis eux, ben, parce qu'ils étaient à 100 mètres sous le niveau de la mer, ben, ils ont survécu, tu vois. Mm-hmm. Fait que là, mon Dieu, c'est la catastrophe au-dessus de la surface. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis l'humanité est détruite. C'est absolument catastrophique.
Un futur complètement irréaliste.
Ah, puis écoute, je sais pas si c'était aussi pire que ça avec les dinosaures, mais pour te dire, en jeu-là, il n'y a plus de vie au-dessus de la surface. C'est vraiment une espèce de volcan. Là. C'est assez déprimant. Mais en fait, ça pour dire que, bon, les scientifiques qui étaient rendus sous la mer, ils ont essayé de comprendre aussi qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Puis éventuellement, il y a eu l'idée de uploader leur conscience dans une machine pour comme sauver l'humanité. Fait que c'est un peu comme la genèse de toute la station. Puis quand on s'éveille, notre personnage s'éveille, c'est la première personne, ben on est au milieu des décombres, puis on essaie un peu de comprendre qu'est-ce qui passe. Une sorte de robot un peu disjoncté qui forme une espèce de sentinelle qui arpente les couloirs, tout brisé, de la ruine partout, des pannes d'électricité. Tu vois qu'il y a eu beaucoup de destructions qui se sont déroulées. Et puis, quand ce jeu-là est sorti, justement, c'était ça. C'est vraiment un jeu philosophique. D'ailleurs, Soma, quand le trailer sort, la ligne qui sort, à la fin, c'est la citation latine célèbre de Descartes. « Je pense, donc je suis ». Donc, c'est vraiment l'idée selon laquelle c'est la véritable nature de la vie humaine et aussi de la conscience, tu vois. Si tu fais juste télécharger ta conscience sur une machine, puis toi, t'es encore là, tu vois. En gros, ce qui se passe, c'est que tu fais des copies. C'est pas qu'ils prennent pas ta conscience, c'est un peu toute l'histoire du jeu, ils prennent pas ta conscience puis ils la transportent pas dans un autre corps. Ils la copient, ils la décuplent en gros. Fait que là, t'as deux personnes, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Il y a carrément un moment dans le jeu où ton personnage approche un terminal et puis ce qui se passe, c'est que tu fais le sondage que les mêmes membres de la station avaient fait en examinant s'ils pensaient que c'était une bonne idée de télécharger leur conscience dans une machine ou dans un serveur ou quelque chose comme ça. Là. Fait que vraiment, les devs voulaient amener l'audience à explorer ces questions-là eux-mêmes. Et aussi, une raison pour laquelle il y a aussi un peu de confusion quand le jeu est sorti, c'est que c'est vraiment un jeu philosophique. Mais le studio était devenu célèbre à cause de son jeu d'horreur, tu vois.
Ouais.
C'est ça qui a rendu le studio Frictional Games célèbre. C'est quand ils ont sorti Amnesia, c'est de ça qu'ils ont vraiment fait leur fortune. Fait qu'ils ont fait un jeu d'horreur, c'est un jeu d'horreur, mais subséquemment, ils ont sorti un mode du jeu genre safe, ou si tu veux, genre, les gens qui ont peur de l'horreur ou qui veulent pas d'horreur puis qui veulent juste genre l'histoire, ben ils peuvent faire ça de même. Tu vois,
fait que le focus, c'est vraiment l'aspect philosophique.
Ben, c'est ça, mais il était comme à cheval entre les deux. C'est un jeu d'horreur, genre, c'est un jeu d'horreur. Le jeu, il fait peur. Genre. Mais je disais, il fait peut-être moins peur que Amnesia, mais il fait quand même peur, le jeu. Il ne fait pas autant peur qu'Amnesia. Ou si tu avais un peu moins de liberté pour modder.
Ouais. Amnesia, tu peux quand même créer tes propres histoires.
Exactement. Il y a des gens qui ont fait la même chose avec avec Soma, mais parce que c'était un phénomène moins grand, populaire, tu as eu moins d'engouement, puis moins de personnes. Il faut vraiment que tu aies une large. Parce que c'est presque personne qui va faire des maps, genre pour Warcraft 3, des affaires comme ça. Mm-hmm. C'est des gens vraiment spécifiques qui vont faire ça. Fait qu'il faut que tu aies une large audience d'habitude pour que tu aies essayé de taper quelques centaines ou quelques dizaines de ces genres de personnes-là, de ce profil-là, qui vont se pencher et faire des choses comme ça. Mais tu sais, il y a des gens qui avaient fait un jeu de course avec l'engin. Tu avais vraiment beaucoup de liberté. Là. Ça rappelle vraiment un peu ce que tu peux faire avec Warcraft 3. Là. Peut-être encore plus, quand même, tu peux modder le jeu. Là. Maintenant, fait que j'y ai rejoué récemment. Et c'était l'Halloween dernier, à vrai dire.
Okay.
Même si j'aime rejouer au jeu de temps à autre, parce que je pensais peut-être carrément faire une thèse pour mon professeur de philo. Là. Je suis en train de faire une sur Dragon Age, mais je pensais en faire une aussi pour mon professeur de philo pour lui montrer. Parce que lui, en gros, il m'avait dit à un moment donné, ouais, c'est juste pour les losers, les jeux vidéo, ça sert à rien. Puis là, moi, j'ai essayé d'y expliquer, non, genre.
Tu as dit, tiens ma bière.
Tu sais, je lui ai dit, ouais, mais c'est ça, j'ai dit, écoute, non, vraiment, genre, je peux comprendre. Je veux dire, il y a des jeux, genre, ouais, okay, c'est juste du divertissement. Ouais. Tu vas pas grandir comme personne en jouant à certains jeux. Mais c'est comme des films, tu vois, il y a des films vraiment profonds qui peuvent te transformer, qui peuvent t'apprendre des choses, qui peuvent vraiment faire des belles choses avec le médium. Puis des films, genre, juste niaiseux, que tu écoutes pour rire, puis ou pour débrancher ton cerveau, puis après, tu t'es oublié assez rapidement. Mais Soma, c'est clairement un jeu. C'est ça. Si des gens dans l'audience qui aiment les jeux de philosophie, vous pourrez. Je pense qu'il se trouve sur GOG, sur Steam aussi. Il n'a pas coûté trop cher. Surtout quand il est en rabais.
Ben, en ce moment, il est justement en rabais à 85%, ce qui signifie qu'il est 4,50$ américains, ce qui est des peanuts.
C'est exactement ça. C'est genre 6$ canadiens ou 6,5$, genre quelque chose comme ça. Fait que ça vaut vraiment la peine si jamais il y a des gens qui aiment la philo. c'est vraiment un beau jeu aussi. Des gens qui aiment les fonds marins, genre, tout le jeu se déroule sous l'eau, avec les poissons, avec des mutants, des monstres, du sci-fi. Les gens qui aiment le sci-fi, c'est futuristique. Hein, ça se déroule peut-être, si je ne me trompe pas, en 2100, quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est le haute technologie. C'est pas tant comme transhumaniste, comme on pourrait le voir cyberpunk ou quelque chose comme ça, ou Deus Ex. Fait que t'es pas à moitié robot, à moitié cyborg, à moitié humain.
Non, c'est ça.
Mais c'est beaucoup plus sombre. Puis c'est des gens qui aiment se poser des questions sur la conscience, les affaires comme ça. Ça pourrait vraiment être une belle expérience. Je le conseille à tout le monde, franchement. Là.
Est-ce que t'avais regardé la série Netflix Carbone Modifie?
Parce que non, on dit rien. Je n'ai jamais entendu parler. C'est quoi ça?
Je suis pas nécessairement un expert par rapport à cette série-là, mais ça ressemble grossièrement à ce que tu m'as dit dans le sens où, dans Carbone Modifié, ils vont pouvoir déplacer... Eux, c'est vraiment ils déplacent leur conscience. Mm-hmm. Fait que j'étais simplement curieux, mais puisque tu l'as pas vu...
Non, j'ai pas vu ça, mais tu sais, c'est ça un peu qui est original, c'est que... Pis... C'est pas pour spoiler, mais c'est assez crucial pour
dire que
c'est... Le jeu est sorti en 2015 aussi, hein, fait que là, c'est quand même... Les spoilers, c'est pas que ça ait une date de péremption à un moment donné aussi. Là, mais,
non, exact. Spoil-moi pas Star Wars épisode 4, s'il te plaît.
Non, c'est ça, je vois pas ça. Mais ouais, en tout cas, pour dire que l'un des points qui est vraiment important dans le jeu, puis c'est quelque chose qu'on nous rappelle constamment, même si le personnage principal le saisit pas exactement tout de suite, mm-hmm. c'est que c'est une duplication de la conscience. Mm-hmm. Fait que si j'ai une machine devant moi, puis j'ai telle charge de ma conscience, puis un automate qui prend vie d'une façon ou d'une autre avec la conscience que j'ai mm-hmm. chargée, ben là, il y a deux mois, tu vois.
Est-ce que le jeu apporte la perspective de... Bon, en fait, c'est quoi sa philosophie par rapport à ça? Est-ce qu'il dit, si tu téléchargerais ta conscience dans une machine, puisque c'est techniquement une nouvelle personne, vous allez commencer à vous séparer au niveau
exactement,
de votre personnalité?
C'est ça, qu'ils apportent. Mais c'est ça, ils peuvent, peut-être qu'ils vont rester le même. À la base, c'est la même personne.
Exact.
30 secondes plus tard, il n'y a probablement pas grande différence. Mais ils peuvent bifurquer, tu vois. Ça veut dire carrément, tu apprends ça quand même assez tôt dans le jeu, fait que je peux quand même le dire. La manière, ce qui se passe, ça veut dire, c'est que le personnage principal, Simon, c'est une copie d'une conscience qui avait été faite au début des années 2000, c'était en genre 2015.
Ok.
Genre, c'était pendant le premier test, genre le scan, parce qu'il y avait eu un accident d'auto puis des dommages cérébraux, fait qu'il y avait eu un scan de son cerveau dans une espèce de d'hôpital un peu, pas d'hôpital, mais une espèce de clinique un peu avant-gardiste.
Ok.
Fait qu'il y a eu une copie de sa conscience qui était storée quelque part. Puis on l'a juste téléchargé dans un automate 100 ans plus tard lors de l'apocalypse, tu vois. Fait que le gars Simon est mort. Le vrai gars Simon est mort, tu vois. Il est mort quand le cataclysme s'est produit, tu vois. Fait que le long du jeu, ben, t'as une conscience d'un automate. Puis pourquoi exactement est-ce que ça s'est produit? Qui c'est qui t'a le téléchargé? Qui c'est qui a collecté ces mémoires vivantes-là?
Ouais, ces données-là.
Puis c'est... Mais tout le long du jeu, c'est quelque chose qui parce qu'éventuellement, on doit télécharger notre conscience. Non, ouais. Pour progresser dans le jeu, on doit le télécharger à d'autres automates. Puis t'es carrément des fois confronté. À un moment donné, t'es confronté au fait que t'as deux versions de toi, tu vois.
Ouais, puis t'es une copie d'une copie d'une copie.
Mais le personnage joueur, nous, l'audience, on prend contrôle d'un des deux, tu vois. Mm-hmm. Puis t'es comme confronté à toi-même, tu vois. Puis qu'est-ce que tu fais avec... Qu'est-ce que tu fais avec toi-même, tu vois? Il te laisse beaucoup de temps de vraiment contempler ces questions-là. Des fois, tu trouves des êtres humains. T'sais. Qu'est-ce que tu fais dans un monde aussi... à la fin, je pense que les devs prennent une position. Mm-hmm. Puis ça, je pense que je peux m'appuyer là-dessus. Parce que à la fin du jeu, la dernière scène qu'ils montrent, mm-hmm. elle n'est pas joyeuse.
Non.
C'est pas genre... En gros, écoute, je sais pas si...
Ils vécurent pas heureux, ils n'eurent pas d'enfants.
Ben, en gros, ils réussissent... Leur point, c'était le but de l'aventure, c'est avec un terminal. Parce qu'en gros, ils réussissent à trouver une autre conscience. Une fille qui s'appelle Catherine, qui vit dans un terminal. Puis ils embarquent dans une grande aventure ou une péripétie pour aller trouver ce qui s'appelle l'Arc, qui est une espèce de serveur. Pour aller télécharger leur conscience, puis ils vont vivre dans une espèce de monde d'Éden, tu vois. Ils vont retourner au paradis, tu vois. Puis ils le font à la fin. Ils réussissent à télécharger leur conscience dans le monde de paradis, tu vois, dans un satellite qui flotte, lévite, à vitam aeternam dans l'espace, tu vois. Mais la dernière scène, c'est ça. L'avant-dernière scène, c'est, tu vois, la conscience de Simon puis Catherine qui explore un peu le paysage idéaliste d'Éden, genre des beaux arbres, de la végétation, mm-hmm. le soleil, le bruit de la rivière, tu vois. Puis waouh, on s'est sauvé, on a réussi, tu vois. Mais à la fin, la dernière scène, c'est, tu vois, le satellite qui fait juste flotter dans le vide, tu vois, quelque chose de très nihiliste qui surplombe la Terre. Puis c'est la première image que tu vois de la Terre. parce qu'il parle tout au long du cataclysme, ouais. C'est la première fois que tu vois la tête, c'est juste une espèce de... C'est pire que Mars. C'est comme si la Death Star dans Star Wars elle avait triomphé, tu vois, ça ressemble à ça. C'est, fait qu'à la fin, les devs, ils nous laissent avec ça. Fait qu'ils disent pas... T'sais, peut-être qu'il y a des gens qui, à la fin, qui disent non, c'est correct, l'humanité existe encore, l'humanité a survécu, mais il y a des autres joueurs comme moi, entre autres, genre moi, ma prise de position de ça, c'était quoi? Ben c'est une illusion, tu vois, c'est pas...
C'est pas la réalité.
Ben, il y a un monde qui existe à l'extérieur de notre conscience, tu vois. C'est pas, on vit pas dans un monde solipsiste, tu vois, où on peut juste dire que, tu vois, tu peux déterminer, toi, indépendamment de la réalité qui existe dans le monde, tu vois. Tu peux prendre des prises de position, tu as des éléments de détachement, de stoïcisme, des traditions ascétiques. Oui, il y a un élément de ça, mais ultimement, genre, tu peux pas juste fermer tes yeux puis juste décider que du moment que... Moi, je meurs pas physiquement, je suis indifférent à ce qui se passe autour de moi. Tu vois, il y a une réalité objective dans le monde.
Il y a une réalité objective et tangible.
Ben oui, on peut. Puis, quand même si on l'ignorait, tu vois, quand même on essaierait de l'ignorer, elle finit par nous frapper, tu vois.
Ouais, ben à un moment donné, c'est aussi que les faits, ils en ont rien à faire de nos opinions.
Tout à fait. Ben voilà, tu vois, il n'y a pas jamais un homme qui a volé du quatrième étage d'un édifice, tu vois.
Ben, hormis avec des moyens techniques, ben
ouais, tu vois, tu peux pas juste décider que la gravité n'existe pas, tu vois.
Non, exact. Je vous garantis, on peut faire tous le test chez exactement. Nous, chers auditeurs. Prenez une banane, une pomme, n'importe quoi, quelque chose qui ne cassera pas. Laissez-la tomber à terre. Si jamais l'un d'entre vous, son objet s'envole, juste m'écrire sur Facebook. J'aimerais qu'on discute.
On aimerait avoir le scoop là-dessus.
Ouais, c'est ça.
On aimerait avoir l'entrevue là, avant TVA, puis la NSA, puis la CIA viennent intervenir.
C'est ça, exactement.
On aimerait savoir c'est qui a réussi à faire le tour.
On voudrait une exclusivité. Qui est-ce qui a battu la gravité? Non, parce qu'effectivement, au final, la science, c'est prédire le futur. Là. C'est d'arriver de dire, moi, j'ai une théorie, peu importe qui va échapper un objet sur la surface de la planète Terre, là, à moins qu'on soit dans une place spécialisée pour ça, l'objet va tomber par terre.
C'est empirique, tu vois, c'est tout ça, la méthode scientifique.
C'est observable.
Comment elle a émergé en Grèce antique. C'est entièrement empirique, tu vois. Mm-hmm. C'est la méthode inductive. Tu es capable d'observer une quantité de détails, puis ça permet de formuler des théories, des théories qui englobent tous les scénarios similaires, tu vois.
Pour nos auditeurs, pourrais-tu définir le terme empirique?
Empirique, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est... Surtout, quand on pourra parler dans des sociétés comme la Grèce antique, c'est que c'est toujours basé sur l'expérience vécue. Mm-hmm. Empirique, c'est quelque chose que tu vis, que tu peux observer, que tu peux calculer toi-même. Tu vois, c'est pas théorique au sens... En gros, c'est l'antithèse du mot théorique. Théorique, c'est dans ta tête, dans un laboratoire un peu... tu peux théoriser comment est-ce que je sais pas, moi... Comme c'était le cas, par exemple, en Ukraine, l'état-major russe a théorisé comment est-ce que la guerre se déroulerait, tu vois, le plan d'attaque, tout ça. Et puis, la méthode empirique, après, c'est d'observer qu'est-ce qui s'est vraiment passé, tu vois, depuis ce qui se passe environ depuis 10-11 jours. Mm-hmm. En gros, la différence entre ces deux méthodes-là, c'est ça. C'est une qui essaie de se bâtir sur... comme soutient la capacité intellectuelle des gens à formuler quelque chose de cohérent et d'utile. Mm-hmm. Puis, l'ambertone empirique, c'est plutôt d'attendre que tu aies des données avant d'essayer de formuler quelque chose, tu vois. C'est un peu la différence comme ça. Fait que non, je pourrais en parler pendant des années, des Grecs, puis de tout ce qu'on leur doit, là. Vraiment, on a beaucoup, beaucoup, là.
Mais c'est quelque chose de quand même assez superbe, parce que, initialement, quand tu m'as dit que tu faisais ta thèse par rapport à Dragon Age, je m'étais dit, ah, OK, son prof, tu sais, il est permissif. Non, en fait, t'es vraiment en train d'essayer de briser un tabou,
quand là, même, ben écoute, tu sais, je veux dire, je m'entends très bien avec lui. Oui. Tu vois, genre, puis,
non, c'est ça, c'est la rivalité
disait, genre,
saine.
Lui me disait, mon frère, genre, il jouait des jeux vidéo toute sa vie, puis en gros, c'est juste un loser, tu vois. Mm-hmm. C'est vrai, genre, tu peux être un loser.
Loser en faisant n'importe quoi.
Tout à fait, mais ça, c'est un genre le prototype nerd qui fait juste jouer à des jeux toute sa vie, tu vois, puis il a jamais rien fait, tu vois. Mm-hmm. Ça, c'est vrai, le professeur a raison. Le professeur, genre, je le disputerai pas là-dessus, genre. Quand bien même, genre, quelqu'un qui écouterait tous les meilleurs films de toute l'histoire, tu vois, s'il fait juste ça, il y a un problème, tu vois. Il faut que la vie humaine doit excéder juste.
La vie humaine est diversifiée.
Tu vois, il faut que ce soit diversifié, mais il faut aussi que tu prennes une action dans le monde, tu vois. Tu peux pas juste, genre, t'isoler dans une tour, puis juste. Quand même tu devenais l'homme le plus savant du monde, c'était juste dans une tour, déconnecté des autres hommes autour de toi, tu vois. En un sens, si on est.
Une barbe grise dans Skyrim.
Ben, un peu, genre, ben voilà, ce qui se passe, c'est quand. Si t'es dans un monde, dans un univers théorique où si tu deviens l'homme le plus sage au monde, mais t'es dans une cage, puis tu peux jamais avoir accès aux autres êtres humains autour de toi, ben y a pas tant de différence entre toi qui vit puis toi qui es mort, tu vois. En certains égards, c'est un peu une bonne façon d'établir si ta vie a une valeur ou un impact, c'est savoir si tu peux faire une différence dans la vie des gens autour de toi ou dans la réalité qui t'entoure, tu vois.
C'est, je me rappelle plus, je pense que c'est Sean dans la série Assassin's Creed, un des personnages avant que la série devienne un RPG pur et dur, qui disait que lorsque quelque chose cesse de bouger dans l'histoire, c'est qu'il est déjà mort, en fait. Il disait ça à propos, je crois que c'est de la ville où l'oncle d'Ezio réside. Lorsqu'on y retourne dans le moment présent, en fait, la ville a absolument pas changé, hormis que maintenant...
Villa, c'est une petite villa, c'est ça. Il n'y a plus rien dedans, vraiment.
Il y a quelques voitures, il y a de l'électricité, mais la ville est exactement comme il y a 400-500 ans. Et justement, Sean amène que ben, si quelque chose ne change pas, ben, c'est qu'il est mort, en fait. Parce que s'il n'a plus d'impact sur le monde, on n'en parlera plus. Il n'a plus... Ce qui est quand même antithétique, j'ai envie de dire, avec qu'est-ce qu'on retrouve dans les musées. Parce qu'au final, les musées, c'est ça, c'est préserver des choses.
C'est garder la chose en vie, tu vois.
Exact. Fait qu'il y a de quoi d'intéressant. Puis effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui est trop souvent sous-estimé. Le pouvoir du jeu vidéo, le pouvoir des films, le pouvoir même de Donjons Dragons, à éduquer, à permettre aux gens d'apprendre. Juste, petit aparté comme ça, il y a de cela, ben en fait hier, je regardais une série sur le jeu de rôle, c'est qui s'appelle Les Deux Tours. Il y avait le joueur du grenier dedans, fait que c'est la raison pour laquelle je regardais. Les Deux Tours, c'est une partie de jeu de rôle, mais politique. C'est-à-dire que vous émulez une élection. Donc, dans leur cas, ils émulaient les élections de 2022 qui allaient se produire en France. Et ils prenaient des vrais faits donc, qui se sont produits. Donc, si, par exemple, tel candidat dans la vraie vie a tenté de faire telle ou telle chose, bah, parfois, si ton jet de dé était mauvais, bah, c'est cette chose-là que tu allais reproduire. Puis maintenant, ils disaient, OK, bon, ben, par exemple, tel personnage a annoncé qu'elle était très fière de personnage Y. Puis quelques semaines plus tard, on apprend que personnage Y est potentiellement un néo-nazi.
Ah, bon. comme ce qui s'est passé. Ce que tu racontes là, c'est un peu ce qui s'est passé pour la plupart une bonne partie des candidats qui étaient comme des apologistes ou qui décrivaient Vladimir Poutine comme étant un élément essentiellement amical, tu vois, dont Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Puis aujourd'hui, ben, pendant tout le reste de la semaine, ils ont dû prétendre qu'ils font un 180. Ben, voilà, c'est juste c'est une catastrophe. Et plusieurs d'entre eux ont perdu plusieurs points à cause de ça dans les sondages.
Exact. Puis c'est justement ça qui est le fun, parce qu'avec les deux tours, ils viennent émuler cette vie politique, cette dynamique-là, où ce que parfois, ben même tu vas te faire proposer de la corruption, ce qui va te permettre de gagner des votes, parce que dans le jeu, tu as différents types de votes. Tu as des votes qui vont venir de la classe économique, tu as des votes qui vont venir des gens qui... ben en fait, eux, ils appellent ça les prolétaires, je crois. Je ne suis plus certain de cette information. Tu peux avoir aussi des votes de la classe aisée. Tu peux avoir des votes de la classe marchande et tu peux avoir des votes de la classe... bon, ils appellent ça les bobos.
OK. Les bobos, ils les appellent comme ça.
Donc, les gauchistes.
Ouais, d'accord, ouais.
Sauf que c'est justement ça qui est super intéressant, parce que tu vois où chaque joueur donc a cette espèce de stratégie où ce qu'il dit, OK, ben moi, j'ai déjà plus de votes de la gauche. Fait que tant qu'il n'y a plus à avoir de votes de la gauche, ben je vais y aller full extrême droite. Comme ça, je vais aller. C'est ça, exact. Ils se radicalisent parce qu'ils se disent, ben, de toute manière, la gauche vote pas pour moi. Fait que pourquoi est-ce que je continuerais? Fait que c'est super le fun de voir cette dynamique-là se créer.
On voit ça sur YouTube, Jérémy?
Ouais, sur YouTube. Donc, okay. vous tapez les deux tours. C'est fascinant. Ça vient de commencer. C'est quand même assez récent. Je trouve ça super inspirant, moi, de voir, parce que j'en ai appris quand même un peu sur la politique française. Notamment, j'ignorais, mais avoir une piscine en France, c'est taxé. Donc, si tu possèdes une piscine, la quantité de taxes que tu vas payer va augmenter proportionnellement. Ce qui, moi, ça, j'avais aucune idée de ça, sauf que tu sais, ça a été apparemment un débat politique réel, à la fois dans le jeu et en France, que de dire, bon, ben, est-ce que on. Il disait, c'est la France, c'est le deuxième pays d'Europe qui taxe le plus. Fait qu'il apportait des arguments pour, des arguments contre. Fait que. C'est le fun de voir qu'on est capable de s'instruire dans des contextes qui sont ludiques, dans des contextes où ce que, ben, justement, t'as pas l'impression d'être en train de d'apprendre, en fait.
Ouais, c'est ça, je comprends. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que c'est vraiment utile, ça, pour peu importe le contexte, dans d'autres types de jeux, que ce soit des films ou des jeux vidéo ou des jeux de société, parce que ça permet d'initier les gens à avoir une culture générale un peu, juste à savoir des noms de lois ou des noms de personnages politiques, même juste des partis politiques. Puis je trouve que c'est un excellent pont pour intéresser les gens, tu vois, à faire quelque chose.
Parce qu'au final,
c'est s'informer dans un contexte qui est pas ludique, tu vois, dans quelque chose.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que c'est un premier contact, l'objectif.
Exactement, c'est ça. C'est un pont, tu vois, c'est comme un tremplin vers. Ben quoi, apprendre, tu vois, c'est comme. Tu commences pas à lire. Ouais, tu commences pas à lire avec un texte compliqué, tu vois, tu commences à apprendre non, à lire avec des histoires d'une tortue puis
non, c'est ça, si tu donnes
Arthur ou quelque chose comme ça, genre
si tu donnes du Victor Hugo à ton enfant, tu sais, peut-être qu'on va avoir une conversation.
Moi que ce soit René Descartes là, un génie de même là, puis capable de le faire là, mais ça c'est assez rare, merci là.
Là ça demande une génétique,
je sais pas comment c'est possible, mais ça doit être extraordinaire. J'ai jamais vu ça moi, mais j'entends des fois des histoires de personnes. Hier d'ailleurs, quelqu'un me racontait comme quoi il y avait quelqu'un qui avait fait trois doctorats en 3 ans. Un doctorat par an pendant 3 ans. Trois doctorats.
D'accord.
C'est genre, c'est ça. Il y avait, je pense que c'était 9 cours pendant l'année.
Oh.
Puis faire la
Il faisait rien d'autre là.
Il disait qu'il faisait rien d'autre que ça, mais c'est, je veux dire,
c'est impressionnant.
Même si je fais rien d'autre, je peux pas faire un doctorat en un an. Là, excuse-moi, c'est juste pas possible.
Non, moi non plus. Je t'avouerais que déjà juste commencer un bac, j'ai l'impression que ça me demanderait mon énergie.
Imagine d'en faire 3 d'affilée là. Non, mais il y a du monde qui naît avec ou qui naît ou qui le développe. Mm-hmm. Là, une combinaison des deux avec un quotient de 180, puis c'est ça que ça donne. Là,
ce qui est aussi quelque chose d'intéressant, parce que souvent les protagonistes dans les jeux vidéo, ben ça va être des gens qui ont une destinée exceptionnelle, qui sont nés avec des capacités qui sont hors du commun, en fait. Fait que c'est le fun, c'est ça, c'est juste... J'encourage nos auditeurs, donc j'imagine que si vous nous écoutez, c'est que vous êtes déjà un peu vendu à la cause, mais je vous encourage à essayer de, que ce soit avec vos enfants, vos amis, juste essayer de trouver un jeu que tout le monde apprécie, puis apporter un thème, un sujet que vous, ça vous passionne, mais que vous n'êtes pas nécessairement certain que ça va intéresser d'autres, puis juste à travers ce contexte ludique-là, vous allez être capable d'amener le sujet. Je veux dire, moi, la plupart de mes amis, initialement, ne s'intéressaient pas au Donjon Dragon, puis juste parce que je l'amenais d'une manière qui était intéressante, ben là, maintenant, quasiment tout le monde joue.
Bah, c'est juste, ça devient juste un... Au début, ça attire naturellement les gens qui sont nerds, parce que bon, des dragons, des magiciens, des druides, c'est pour eux, c'est juste le fun tout court. Mais pour n'importe qui, c'est le fun de juste avoir du fun, du plaisir en société, tu vois.
Ben, c'est
dans
ça.
Un jeu de société, puis ça devient juste un peu... Même, peu importe si tu connais ou tu connais pas l'univers Donjons et Dragons ou les règles générales qui gouvernent ce monde-là, t'as du fun à jouer avec, à tirer les dés puis voir un peu qu'est-ce qui se passe là, l'inattendu. Puis
il y a une de mes joueuses justement que elle, quand la pandémie a commencé, son ex-copain qui était encore son chum à l'époque, il avait commencé à vouloir faire du Donjon Dragon, sauf qu'il avait pas nécessairement les livres. Puis ben il s'est dit bon ben on inventera un peu les règles si on les connaît pas. Puis ils ont fait ça, puis ils ont eu du fun. Puis tu sais, il y a l'imaginaire, c'est sous-estimé. Particulièrement à l'époque où on est, l'imaginaire, c'est sous-estimé. Mais sans partir en cacahuète, on va aller à la pause, suite à quoi vous allez entendre des musiques, bien évidemment, d'Elden Ring, notamment de la Reine de la Lune, Renala, qui est désormais mon boss préféré.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Pour ne rien manquer des nouvelles culturelles à Québec, rejoignez-moi et mon équipe pour parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Trois filles en communication, ça jase. Venez écouter notre émission sous la forme de podcast les vendredis à 14h. Même si ta matinée a mal débuté, on te promet un sourire en cette fin de journée. Au menu, critiques culturelles, vie universitaire, santé mentale et une bonne séance de jasette. Les vendredis à 14h, décompresse avant le week-end et serait un petit cocktail, après tout, it's 5 o'clock somewhere.
Curieux de revenir à l'époque où il y avait de la flûte partout?
Venez nous rejoindre à Recyc Prog pour une super sélection de chansons rock progressives à découvrir et redécouvrir.
On se retrouve tous les jeudis à 14h à Chiz 94.3.
Le Palais Montcalm présente la musique jazz à son meilleur avec Jeff Neve et Théus Nobel. Le talentueux jazzman flamand Jeff Neve sera accompagné de l'excellent trompettiste néerlandais Théus Nobel, avec lequel il rendra hommage au défunt Toots Thielemans le temps de quelques pièces. Jeff Neve et Théus Nobel le 10 mars à la salle Diouville du Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca.
écoutez toujours des Kiwi Dinners à Chiz 94.3.
Les musiques des jeux From Software sont des délices pour les oreilles.
C'est merveilleux. Tous les jeux ont des morceaux iconiques. Moi, je les écoute encore. Que ce soit le Demon's Souls originel, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Elden Ring, la musique est juste splendide, franchement. Là.
La musique dans les jeux From Software est choyée aux petits oignons. Je sais pas, de ton côté, Alex, toi, est-ce que tu connaissais un peu la série des Souls? Parce que je sais que toi, Jérémy, tu la connais. D'ailleurs, je te remercie encore de m'avoir prêté Bloodborne le temps que From Software parvienne à fixer son portage PC. Donc, Alex?
Non, j'ai vu du monde jouer sur Twitch à Dark Souls. Puis moi, j'ai joué à Hot World, là, qui est inspiré de Dark Souls. Ouais. Là. Mais non, j'ai jamais joué à Dark Souls, vraiment. C'est pas. Non, ça, je m'étais dit, c'est trop hardcore, là, donc on joue pas à ça. Là, je vais mourir tout le temps.
Non, mais effectivement, d'ailleurs, petit aparté sur Hot World, ça a été fait par un studio québécois, si je ne m'abuse.
Ouais, Ninebot Studio.
Excellent, excellent jeu. Il y a une bonne durée de vie. Par contre, la rejouabilité, c'est pas nécessairement ça.
Ah, c'est possible.
C'est possible, mais c'est pas du même calibre que Dark Souls, mais en même temps, on s'attend pas à ce que c'est le même calibre. Fait que si jamais il y a des gens qui sont en manque de Dark Souls ou qui veulent jouer à Elden Ring, mais n'ont pas nécessairement le budget pour, c'est un jeu d'un petit studio québécois. Hot World, excellent, de très bonnes mécaniques, et c'est un jeu qui, à sa base, est un jeu d'exploration, surtout et avant tout.
Ouais, exploration, avec, survie, ouais.
Avec une bonne histoire, puis l'aspect survie est quand même très, très le fun, en fait. Ça fait partie des rares jeux où ce que je te dirais que les items consommables sont nécessaires. Puis ça va être un des défauts que je vais mentionner à Elden Ring aussi, où ce que les consommables, les objets, comme dans les autres Souls, sont pas indispensables. Il y a certaines situations où t'as pas le choix d'avoir des objets, comme...
Une clé, genre?
C'est ça, il y a des clés, mais il y a aussi des fioles miraculeuses donc dans ce jeu-là. Donc, c'est un ajout qui a été fait. Mais avant tout, je vais commencer par mentionner les petites mésaventures Elden Ringiennes. Comment dire? On sait que From Software a toujours eu un peu de difficultés avec les portages PC. Je tiens quand même à mentionner que lorsque le jeu est sorti, il était complètement injouable sur l'ordinateur. Si t'avais pas un ordi de streamer, de gamer ou à la limite de la NASA, c'était pas jouable du tout. Il y avait des ennemis qui étaient invisibles. Le framerate tombait à... Le nombre d'images par seconde tombait à 5-6 gros maximum. Le jeu... fermé. On a perdu les serveurs de Dark Souls 3, 1 et 2 en multijoueur pour être capable de faire fonctionner Elden Ring. Ce qui veut dire que je sais pas si ça a été réglé, mais ça va faire à peu près un mois que c'est plus possible de jouer en multijoueur aux autres Dark Souls sur PC. Donc ça déjà, ouch, ça a été un sacré coup dur pour From Software qui s'était pris une avalanche de commentaires négatifs. Commentaires négatifs qui ont rapidement tourné au positif parce que le lendemain, il y avait déjà une patch qui réparait pas tout, mais avait quand même permettait aux gens de jouer un peu. Quelques ennemis étaient encore invisibles, pas l'idéal, ça se faisait quand même. Et tout ça jusqu'à la patch d'il y a 3 ou 4 jours, donc de 4 jours, celle de mercredi, qui, elle, a réparé pratiquement tous les problèmes, et donc le jeu est désormais jouable sur PC. Donc je suis quand même content. From Software ont rectifié le tir très, très, très rapidement. En fait, lorsque le jeu est sorti, tu sais qu'ils s'attendaient à ce que ça ressemble à ça, puis les équipes étaient déjà en train de patcher les problèmes. Je trouve ça le fun de voir que cette compagnie-là est encore très réactive. Ils ont vu que quelque chose allait pas. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on a autant de commentaires négatifs? Notre jeu, c'est un chef-d'œuvre. On devrait pas avoir de commentaires négatifs. Puis effectivement, Elden Ring, chef-d'œuvre. On va avoir une grosse compétition cette année pour le jeu de l'année parce qu'il y a aussi.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort cette année? C'est vrai, je m'en souviens.
God of War, la suite de God of War, oui, qui est censé sortir cette année, oui. Donc Ragnarok, qui va être un très, très, très solide compétiteur, surtout après avoir vu la fin du premier jeu où on a la révélation que Boy est en fait Loki, donc dieu de la tromperie et du mensonge, et un fort sous-entendu sur le fait que Kratos va mourir.
Ouais. Donc, essentiellement, ils te le disent, tu vois. Fait que, ils préparent les fans de la série, genre, à sa mort.
Ouais, exact. Ils se sont dit, tu sais, quand Joël est mort dans Last of Us 2, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pas prêt. Ça. Que... On va les préparer tout de suite pour ne pas avoir la valence de haine.
Mais ils l'ont bien fait. Moi, j'ai joué au... C'est ça. Moi, j'aime pas l'appeler God of War 1, parce que j'ai joué au 1, qui sort sur la PlayStation 2.
Ouais.
Fait que pour moi, c'est God of War 4, ça, tu vois. Ouais. Fait que... Mais je me souviens pas d'avoir bien... Pour moi, des commentaires négatifs, j'en ai vraiment pas entendu parler pour ce jeu-là. Je pense que tout le monde...
Non, c'est un
excellent jeu. Même les fans, pour moi, je joue à la trilogie originale, qui était merveilleuse. D'ailleurs, à un moment donné, je vais faire une chronique dessus, parce que je pense qu'on a comme oublié à quel point c'était des jeux vraiment excellents. Parce que le God of War qui sortit sur la PS4 est juste... légendaire, puis ça a comme éclipsé tout ce qui était venu auparavant, tu vois. Puis c'était une série quand même pas mal distincte.
Mais pour en revenir à Elden Ring, donc, dans Elden Ring, la première chose qui marque, c'est que, comment dire, tu commences, tu peux pas leveler. C'est-à-dire que lorsque tu te promènes, tu vas à l'extérieur, t'as pas le fameux cheval Tempest, t'as rien. Tu fais juste rencontrer quelqu'un qui te parle de manière un peu cryptique, tu te rends compte qu'il y a des feux. Donc, je vais les appeler feux parce que c'est difficile pour moi de dire des runes plutôt que des armes, juste parce que la mécanique est la même. Dans Dark Souls, t'accumules des armes. Dans Elden Ring, t'accumules des runes. C'est des points qui vont te permettre d'acheter tout et n'importe quoi. Fait que ça, tu sais, il y a une petite répétition de ce côté-là, mais c'est une répétition qui est la bienvenue. Pourquoi changer une formule qui est déjà gagnante quand tu peux simplement ajouter? Et rapidement, lorsqu'on va commencer à avancer, on va se rendre compte que le jeu est capable de te diriger. C'est un monde ouvert, mais il y a à travers ces feux-là, donc une espèce d'aura dorée qui va te diriger vers le prochain feu, qui va te mener vers la quête principale. Donc tu sais très clairement où se trouvent les boss de quête principale. Et lorsque tu vas t'y rendre au début, parce que tu te fais un peu guider par la main, tu vas te faire offrir ton cheval Tempest, tu vas rencontrer Mélina, qui est celle qui va te permettre de gagner des niveaux. Et dans Elden Ring, c'est très long, gagner des niveaux. Moi, après 20 heures de jeu, j'en ai gagné peut-être 21-22. Donc, très, très, très agréablement surpris du fait que From Software a réalisé que c'est pas... C'est un RPG, mais le truc qui est le plus important, le plus fun avec les Elden Ring, avec la série des Souls, c'est de se dire, OK, quelle arme que j'ai envie d'avoir, quel style de combat que je vais avoir pour que tout soit viable, puis le fait que les stats ils ont quand même une incidence, mais soient mis un peu à l'arrière-plan cette fois-ci, ça fait que maintenant, il faut vraiment que tu réfléchisses au build que tu vas faire, quelle épée est-ce que je veux avoir, quelle arme. Puis aussi, il y a un système de cendres. Donc, ces cendres-là, ça va te permettre de changer l'attaque, donc le weapon art de ton arme, ainsi que la manière dont il va gagner en puissance. Par exemple, si tu as une rapière, tu peux avoir une technique à la rapière qui va te permettre de lancer un sort, ou alors tu peux créer une énorme épée magique avec, ou alors tu peux tout simplement changer ta posture. Donc, c'est penser à l'Uchigatana dans la série des Souls. Le weapon art, donc la technique, ça va toujours être, il va enchaîner 5-6 coups d'épée. Mais là, tu peux changer cette capacité-là, ce qui permet de varier plus les plaisirs. Donc, t'es pas limité à dire, OK, cette arme-là, je la trouve plate, mais l'attaque spéciale est tellement haute que j'ai envie de la jouer. Par exemple, je vais penser aux épées de la danseuse dans Dark Souls 3, où c'est une très, 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 très mauvaise arme, mais son attaque spéciale, c'est que t'es en train de tourner dans tous les sens, puis tu mets des coups. Ah, c'est magnifique. Oh, donc, tu deviens une toupie de Beyblade.
L'un des classiques, c'est pour parler de Dark Souls 3, c'est quand t'avais une hache, puis il y avait essentiellement une weapon art de merde où il faisait juste l'aiguiser, puis t'avais un peu de lifesteal, c'est genre... OK, ouais, ça sert à rien. J'imagine que j'aurais sans hache de mort.
Exact, c'est ça. Tandis que là, si t'as la hache, tu peux aller chercher différents types d'armes. Fait qu'au niveau de l'éventualité des possibilités qu'on a, ça a été très, très, très élargi. C'est le bienvenu, c'est une belle addition. Il y a aussi des mécaniques de Sekiro qu'on y retrouve, où maintenant, il y a... On peut être discret, on peut attaquer les ennemis par derrière, on peut se pencher, se promener dans les feuillages, guetter notre proie, lui tirer des coups d'arc à flèche, et ça va faire des dégâts supplémentaires tant aussi longtemps qu'il ne t'a pas vu. Et les boss de la zone principale vont, te mettre en PLS très rapidement, parce que tu vas réaliser que le jeu te dit « Va-t'en explorer, on te fait un monde ouvert, on s'est dit, on va te faire une grande zone dans laquelle il y a beaucoup d'exploration à faire. » Et justement, ça n'a jamais été aussi vrai, les choses que j'ai dit par rapport à Dark Souls, que dans Elden Ring, où l'exploration est maître dans ce jeu-là. T'as de la difficulté avec un boss, va explorer une autre zone complète de la map. Si t'es pas capable de traverser le boss dans la série des Souls, t'avais pas le choix d'éventuellement finir par le tuer parce que le nombre de places où tu pouvais aller était limité. T'es coincé dans une zone, Moi, je suis coincé sur Enala, ça va faire peut-être 2 jours. Extrêmement dur comme boss, même s'il est très agréable. Mais tu t'en vas explorer ailleurs. Puis éventuellement, ben, tu vas tomber sur de l'équipement, donc des amulettes, par exemple, qui vont te protéger de la magie. Fait que là, tu dis, ah, bon, ben, contre Enala, ça peut être utile. Fait qu'il faut que tu changes ton équipement de façon appropriée au boss puis à la zone que tu vas aller, ce qui n'était pas vrai dans les autres jeux. Mmh. Dans les autres jeux, il y avait tout le temps un anneau qui était supérieur aux autres. Je pense à l'anneau de Chlorantie dans Dark Souls 3 ou alors à l'anneau de Faveur dans Dark Souls 1, que même si tu jouais mage, tout le monde l'équipait juste à cause du boost de l'amplification de statistiques que ça donnait qui était juste abusé.
Excuse-moi, juste, oui. Est-ce qu'il y a 4 emplacements pour les anneaux? Il y en a juste 2 dans Elden Ring?
Dans Elden Ring, il n'y a pas d'emplacement d'anneaux. En fait, pas du tout, la manière dont ça fonctionne, c'est que si tu veux récupérer de la mémoire supplémentaire pour avoir plus de sorts, ben, ça va être au travers d'objets que tu dois trouver dans le monde. Donc, tu commences avec 2 emplacements de sorts lorsque tu joues le prisonnier. Je l'ignore pour les autres classes, j'ai pas encore suffisamment expérimenté. Puis si tu vas dans le magasin de la table ronde, qui est donc un peu ton hub, ton endroit où tu vas pour te reposer, parler avec les NPC, donc ton Firelink Shrine au final, ben, tu peux en acheter un autre, un monolithe. Donc c'est une espèce de collier qui va donner un emplacement de sort supplémentaire. Puis lorsque tu vas avancer par exemple à l'Académie Royale, ben, tu vas en débloquer un autre. Fait que si tu veux avoir des emplacements de colliers supplémentaires, si tu veux avoir des emplacements de sort supplémentaires, c'est plus avec les stats. Donc maintenant, si tu veux avoir plus de mana, ça donne plus de mana, ça te donne pas de mémoire supplémentaire, il faut que t'explores. Et encore une fois, c'est cette diversité-là que ça amène. Parce que avant, si tu voulais te faire un guerrier qui avait quelques sorts, t'avais pas le choix de mettre des points dans ces statistiques-là. Maintenant, si tu veux te faire un guerrier qui a des sorts, explore un peu la zone, trouve un monolithe. T'as peut-être 35 PC, bah, trouve-toi un sort avec lequel t'es confortable, qui est pas trop difficile. Puis ça permet tellement un large éventail. La rejouabilité dans ces jeux-là va être massive. Déjà que dans les jeux From Software en général, Sekiro mis à part, la rejouabilité est quand même assez élevée. Là, on parle d'un jeu que je pourrais rejouer 8, 9, 10, 11 fois et ne pas me lancer. Aussi de très belles additions au niveau des sorts dans la série des sources. Encore une fois, les sorts, c'est flèche d'âme, grande flèche d'âme, grosse flèche d'âme, lourde et grosse flèche d'âme.
Ouais, c'est genre, c'est plus. Ouais, c'est souvent, ben écoute, c'est pas juste ça, il y a plus de variété que ça un peu, mais ouais. C'est vrai que pour l'essentiel de ce que tu utilises pour tuer du monde, tuer des monstres, tuer des boss, c'est la meilleure version du sort que tu avais précédemment, essentiellement.
Exact, c'est ça. T'sais, la seule chose qui va différer, c'est le temps que ça va te prendre pour lancer ton sort. Mm-hmm. Fait que dans Elden Ring, ben, les sorts sont très, très, très diversifiés. Tu as des sorts qui vont créer des épées autour de toi, qui vont se battre et t'aider. Tu vas même avoir des espèces d'invocations. Donc, tu as des colliers où tu peux invoquer des loups. Tu peux invoquer donc des gens qui vont se battre pour toi. Qui vont rester pendant une durée limitée, là. Ils seront pas là pendant tout le combat, fait que tu l'invoques, littéralement tu peux jouer un conjurateur dans Elden Ring, ou alors les capacités au niveau des sorts de foi, ben c'est plus seulement limité à je vais me soigner un peu ou je vais me soigner plus, non, là maintenant tu peux cracher du feu des lasers, je pense que tu peux cracher des lasers avec tes yeux, tu vas pouvoir te transformer en dragon. Donc, ce qui était déjà là dans les sources, mais qui est vraiment approfondi dans Elden Ring. Et les sorts, ben justement, tu vas avoir un sort que ça va juste être un arc, donc qui va se lancer pour toucher plusieurs ennemis. Tu as des spells de corps à corps, ce qui manquait beaucoup. Tu vas avoir un sort que c'est une espèce de champ gravitationnel. Tu le lances sur l'adversaire, ça lui fait du dégât et ça le force à se mettre collé contre toi. Wow, donc, quand tu te bats contre un mage, tu lui balances. Et tu fais plaisir.
C'est clair
au
que
final.
Dans les jeux précédents, c'était souvent limité. Tu sais, encore à corps, t'avais les sorts avec l'épée magique, mm-hmm. ou la combustion. C'est vrai que c'était très limité. Clairement, si tu jouais un mage dans la série précédemment, ben, essentiellement, tu jouais à distance.
Exact. Puis encore une fois, il y a un truc avec les arbres mondes et je vais essayer de faire ça très rapidement parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce jeu, ce chef-d'œuvre. Lorsque je parlais des fioles miraculeuses, tu vas affronter des arbres mondes mineurs dans le jeu. C'est basically toujours le même boss. Tu vas toujours affronter le même boss, mais dans une zone différente, ce qui fait qu'il va être un peu différent. Ce qui est un peu dommage, même si ça fonctionne au niveau de l'histoire.
C'est George R.R. Martin.
Oui, donc George R.R. Martin qui a participé.
Y a-tu bien du monde qui meurt, ça veut dire?
Ben, c'est un jeu From Software. Donc, de base, il y a beaucoup de gens qui meurent, notamment le joueur lui-même. Mais je suis content parce que j'avais peur qu'il soit juste un prête-nom dans cette situation-là. Mais il paraît qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé son expérience avec From Software, et même que Renala, donc le boss dont on a entendu la musique tout à l'heure, ça sent le genre Gérard Martin. Là. Comment elle est écrite, là, tu te dis, OK, c'est pas quelqu'un chez From Software qui l'a écrit, là. C'est genre Gérard Martin.
Moi, ça m'aurait pas déçu si Martin aurait rien fait, parce que je trouve que le From Soft fait tellement un beau travail à la base. Tu vois, je trouvais que la collaboration était un peu curieuse, parce que j'ai jamais trouvé que l'histoire ou la création de boss ou d'entité dans la série, c'était un point faible du studio. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait fait un excellent travail. Oui. Ça m'a toujours, quand j'ai vu l'annonce, j'ai trouvé ça un peu surprenant, surtout que je trouvais que, évidemment, tout le monde détestait la manière dont Game of Thrones avait fini conclu. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a étonné, moi, qu'il y ait une collaboration comme ça.
Ça m'a surpris, mais surpris de manière agréable, finalement. On sent que George R. R. Martin a eu sa voix, on sent qu'il a apporté des choses. Sincèrement, ce jeu-là, c'est une tuerie. Si on oublie les quelques problèmes d'optimisation qu'il y avait au début, tout ce qu'il y avait de déjà bon dans les From Software a été amélioré x10. Les choses qui étaient moins appréciées, donc le multijoueur, on en parlait tout à l'heure pendant la pause, Jérémy, le multijoueur a été beaucoup amélioré. Ça file un peu comme un MMORPG, en fait, où ce que tu vas rentrer dans une zone, c'est un donjon, puis tu vas faire, c'est une instance, en fait, tu peux invoquer ton ami dans une instance, puis vous allez faire le donjon ensemble. Puis quand le donjon va être fini, il va partir, tu retournes dans le monde ouvert, tu vas te promener.
Ça ressemble un peu, il faisait un peu ça dans Bloodborne. C'est un peu comme ça dans les donjons Caliste.
Ah oui, effectivement.
Tu avais quand même un élément un peu comme ça où c'était comme un donjon où tu as une instance de téléchargement pendant laquelle tu rentres un peu. Parce que la majorité du temps dans ces jeux-là, tu vas avoir un fog gate qui sert de loading screen peu, là, mais essentiellement, c'est un monde pas ouvert, mais c'est un monde qui est continu, tu vois.
Exact.
T'as pas des loading screens bien souvent, à moins que tu téléportes dans une zone, tu n'en as jamais. Mais ça, dans Bloodborne, tu avais ces donjons Calista. Puis maintenant, ce que tu me racontes, c'est que apparemment il y a ça aussi dans Elden Ring.
Oui, et puis c'est formidable. Ils ont pris les meilleurs éléments de tous les jeux. Ils ont fait, OK, on fait un monde ouvert avec ça. Et très, très, très bienvenue. Les boss sont beaucoup plus durs pour certains, sauf que c'est compensé par le fait que si t'es coincé sur un boss plus difficile, tu as littéralement 50 heures de contenu que tu peux aller faire ailleurs. Là. Donc, extrêmement content de mon achat. Je pourrais en parler pendant des heures, moi aussi. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un jeu qui, selon moi, c'est du divertissement pur. Là. C'est-à-dire que au niveau de la philosophie, quand on joue au premier Dark Souls, oui, il y avait quelque chose d'intéressant à dire, il y avait quelque chose à raconter. Par contre, ça se répète au niveau de leurs histoires. Ça, c'est quelque chose que j'espère qu'il va changer dans le prochain opus, parce que je suis fatigué de me faire dire « Oh là là, le monde va mal, tu es après les événements. Oh là là, tu dois faire quelque chose pour les régler. » Ça marchait très bien dans les Souls.
Ça fait partie de tout l'univers du jeu. Tu vois, le monde est pris dans une boucle qui se répète sans arrêt. Fait que, tu vois, en un sens, c'est correct si le monde est un peu se répète littéralement dans le premier, deuxième puis le troisième.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est.
On est dans un univers différent, puis j'ai l'impression de jouer à Dark Souls 4, honnêtement.
OK. Wow, OK. Mais tu vois, tu dis que c'est une critique, mais pour moi, là, je pourrais jouer jusqu'à Dark Souls 50, puis je pense que je serais content aussi. Fait que c'est pas tant un problème pour moi.
C'est juste que je considère qu'ils ont tellement un beau potentiel qu'ils pourraient essayer d'aller explorer autre chose, parce que là, ça se sent comme si c'était une continuation d'une série qui est censée être terminée. T'sais, Dark Souls 3, ça se termine. Bon, pour ceux qui connaissent pas la fin, désolé, je vais la divulguer. Le jeu est sorti, ça fait quand même un certain temps. Donc, dans le premier jeu, lorsque tu bats le Seigneur Cendré, lorsque tu deviens le soleil, il y a une grande explosion de lumière et tu sens que le cycle a recommencé. À la fin de Dark Souls 3, lorsque tu termines et que tu y vas, en fait, le feu, ça fait tellement souvent qu'il a été réallumé encore et encore et encore que quand tu arrives pour l'allumer, t'as quelques braises.
C'est ça.
Puis ensuite, un fondu au noir. Puis tu comprends que l'âge du feu est terminé, puis que simplement se battre contre l'inévitable au final.
C'est ça, c'est un peu c'est ce qui est sous-entendu, tu vois, à la fin, quand tu décides d'allumer le feu, de maintenir allumé avec ton propre corps, c'est vrai, la flamme est très timide. La flamme est là, tu vois, elle est toujours là. C'est pas comme si elle s'était éteinte, mais t'as le sentiment que le monde est fatigué. C'est tout ce qui se passe. Tout l'environnement visuel de ce jeu-là, c'est que le monde est fatigué, tu vois, le monde est usé de ce cycle-là.
Puis dans un jeu qui a beaucoup d'inspiration venant de la mythologie nordique, j'aurais aimé ça qu'ils aient cherché des inspirations plus profondes que simplement dire « Ah, le Ragnarok a eu lieu! » Mais c'est pas nécessairement un défaut en soi, c'est simplement une espérance. J'espère que dans les prochains jeux, ils vont essayer de diversifier un peu leur scénario parce que c'est tellement des cerveaux brillants chez From Software qui peuvent faire des choses très, très, très intéressantes tout en gardant cette philosophie nihiliste-là sans que tu aies l'impression de tout le temps revoir une histoire similaire. Désolé Alex, je t'ai bouffé un peu de temps d'onde, mais on peut passer à ton émission donc.
Oui, bon, ma chronique va parler d'animation légèrement, puis je fais un parallèle avec Gabriel Garcia Marquez que je voulais vous parler, l'auteur écrivain de 100 ans de solitude. Il a écrit aussi L'amour au temps du choléra, qui est reconnu. Puis moi, je lis en ce moment Vive pour la raconter. Là, je voulais vous parler de cet auteur-là parce que c'est ça, il y a eu une influence dans un film célèbre là, qui est paru il y a pas longtemps au cinéma. Donc, pour faire une histoire courte, on peut dire de lui, c'est un Colombien. Il est né le 6 mars 1927, puis il est mort le 17 avril 2014. Donc, il a vécu beaucoup là, dans le siècle, le 20e siècle. C'est un journaliste, il est reconnu pour être un journaliste, dans le fond, à la base. Là. Journaliste engagé aussi, qu'on peut dire, parce qu'il a fait beaucoup de conflits avec son propre pays là, pour dénoncer des choses, des conflits militaires, des choses comme ça. Il a dû être exilé aussi. Donc, il était très engagé. Donc, on voit aussi que ça déteint sur son style d'écriture là, dans ses livres. Là. C'est clair que ça ressemble à être des reportages. La manière qu'il écrit, là, cool. On a l'impression de lire un long reportage, une description super longue. T'sais, des fois, on compare J.R. Tolkien pour dire, lui, il fait des longues descriptions. C'est le J.R. Tolkien des descriptions réelles, là, sur du tangible, du concret, tout ça. Là.
Fait qu'on voit qu'il y a une expérience là-dedans. Là.
Oui, vraiment. Puis lui, il décrit ça beaucoup de son vécu, je pense, là. Sa famille, ses ancêtres, ses amis, ses proches, le village où il a vécu, c'est un des thèmes récurrents. En fait, ça s'appelle Arakataka, la ville où il est né, mais là dans ses récits, dans ses livres, il parle de Macondo, là, qui est comme une ville fictive, qui est comme un peu reclus, qui on sait pas trop d'où elle sort, puis c'est le bassin là, pour une saga familiale complète. Là. Dans le fond, ils sont les fondateurs de la ville, puis jusqu'à son déclin. Là. Justement, dans 100 ans de solitude, c'est un peu ça l'histoire. Là. C'est du début jusqu'à la fin d'un village.
C'est comme la genèse, c'est littéralement. C'est la genèse, fin. Ça commence avec la fondation du village jusqu'à sa disparition totale.
Là. Il y a un style d'ailleurs très sombre. Ça, c'est particulier aussi. T'sais, on lit tout le long, puis c'est mélangé avec des scènes sombres, de la violence, des conflits politiques. Il y a beaucoup aussi même de sexe là-dedans. C'est décrit assez cru, là. C'est tout un mélange de choses qui rendent le récit vraiment réel, basé sur des faits. Mais par contre, au travers de ça, ce qui est le fun, c'est qu'il y a de la magie. Vous allez être contents, les joueurs de Donjons Dragons. Il y a de la magie aussi. On parle, son style littéraire, c'est du réalisme magique. Donc, c'est vraiment, là... beaucoup de réel, comme je disais, comme c'était un reportage, mais mélangé avec, mettons, des personnages qui ont des dons surhumains, des événements surnaturels qui se passent dans la ville, tout ça, ou des choses un peu comme ça, là. Donc, le style réalisme magique, c'est un peu, dans le fond, ce qui se fait en jeu vidéo, en bande dessinée, en cinéma. On peut le voir un peu partout. Je vais vous donner des exemples. Là. Par exemple, en cinéma, Emir Kusturica, qui est un réalisateur qui fait ça, on dirait que c'est un documentaire, mais mélangé avec un peu de magie, un peu de surréaliste. Puis sinon, en jeu vidéo, j'ai lu à quelque part, on parlait de Metal Gear Solid, qui est comme, il y a des gros conflits militaires, beaucoup de militaires, des faits comme ça, mélangé avec un personnage ou des faits un peu surnaturels, là, des talents magiques, on pourrait
c'est
dire.
Ça, c'est du réalisme surréel, un peu, c'est ça. Ouais. C'est très, à bien des égards, c'est très réaliste, mais sauf que tu as des éléments un peu...
Puis c'est ça s'oppose au merveilleux que lui, tu sais, c'est vraiment détaché du réel. C'est vraiment un monde à part. Là, dans ce cas-ci, c'est mélangé au concret. Là.
Ce que tu me racontes, ça me fait penser beaucoup à Tudor Nicole, qui avait été un long métrage qui avait été diffusé par Spiro il y a un certain temps. Où ce que tout est réel dans ce monde-là. Sauf qu'à un moment donné, par exemple, tu vas avoir un enfant qui a une voix d'adulte de 45 ans.
c'est vrai, oui. Des personnages un peu de passé, là. Ouais, c'est vrai. Puis ben, le parallèle que je voulais faire avec ça, c'est que ben, Encanto, le film de Disney, j'aime ça parler de Disney parce que je me suis abonné à un mois là, à Disney+, puis j'ai trippé. Là. ben, Encanto est basé en Colombie, est inspiré de la Colombie. Principalement aussi, il y a les lieux qu'on appelle les Encanto, qui sont des lieux sacrés, tout ça. Puis bon, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis de la magie un peu au travers d'un contexte très réel. C'est donc une dynastie familiale qui vit dans le film d'Encanto. Puis la maison est magique. C'est ça qui est magique. Puis les enfants des descendants, ils ont des dons. Là. Un qui est fort, un qui fait des fleurs, un qui entend un ouïe super. Fait que c'est vraiment inspiré du monde de Gabriel Garcia Marquez. Fait que c'est le fun de voir les parallèles qu'ils ont fait. Ils sont vraiment allés chercher un univers. Et tandis que l'émission est en train de terminer, nous entendons oui. une musique de Final Fantasy VI, comme si c'était le dernier boss qui arrivait.
Eh oui. Est-ce que tu auras un mot de la fin, Alex? On te donnera plus de temps pour ta prochaine chronique. Excuse-moi, je me suis laissé emporter par Elden Ring.
Le mot de la fin, ça va être Silencio Bruno. Quand vous entendez ça, ça veut dire que vous devez faire taire le... Faire taire la petite voix intérieure qui crie, puis l'apaiser, puis vous faire confiance.
Oh, magnifique. Et donc, de notre côté, on va se revoir la semaine prochaine pour une formule débat cette fois-ci, où nous allons avoir Jérémy Germain et William Blanchet qui vont...
On déballe quoi? C'est quoi, c'est quoi le débat?
Jérémy qui l'apprend à l'instant. Donc, on s'en était parlé il y a un certain temps. On allait débattre par rapport notamment au film Star Wars. T'avais ouvert un petit peu le débat.
Ah, oui.
Et donc, on va essayer d'avoir cette formule-là au moins une fois par mois. On va commencer à avoir des débats. Donc, on va poser un peu le point de vue de Jérémy à celui de William et ça promet de chauffer
ça va fesser s'il va y avoir des étincelles là, des feux d'artifice là.
Formidable. Et donc sans plus attendre, je vais nous envoyer à la pause.
Mon corps ne sait mentir au milieu des soupirs.